Interception. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons en plein désert, au Chili, dans la cordillère des Andes, à 2600 mètres d'altitude, pour scruter les étoiles et leurs mystères, et pour décrire l'évolution extraordinaire de l'astronomie moderne. Pour Interception, Sophie Becherel est donc allée au Chili, où les Européens ont installé un télescope ultra-performant qui va leur donner une longueur d'avance sur les Américains. On l'appelle le VLT, le Very Large Telescope. Il se compose de 4 très grands miroirs, ils font 8,20 m de diamètre, mais surtout, ces 4 miroirs vont être couplés entre eux. Cette technique donne au VLT une vision unique, d'une très grande finesse. Elle lui permet de voir très loin, de remonter le temps en allant chercher des étoiles très peu lumineuses. Ce télescope, qui en est encore à sa phase de développement, a déjà permis de belles découvertes. Par exemple, l'univers est plus vieux que ce que l'on croyait, 12,5 milliards d'années. L'autre atout majeur du VLT, c'est son efficacité. Pas une minute de scrutation du ciel n'est perdue. L'Agence européenne d'observation astronomique, l'ESO, est capable de répondre à la demande de centaines de chercheurs qui ne viennent pas forcément sur place. Ils reçoivent sur Internet ou bien gravés sur un CD les images qu'ils ont commandées et ils regardent ça sur leur ordinateur à la maison. Incroyable. On entre donc dans l'ère de l'astronomie industrielle, bien loin des nuits entières passées par les astronomes juchés en haut d'un télescope. Au Chili et la tête dans les étoiles, voici pour Interception le reportage de Sophie Becherel, un télescope pour le 21e siècle.
Alors en ce moment, la porte du dôme du télescope numéro 1 est en train de s'ouvrir sur le ciel. Donc on est à peu près une heure avant le coucher du soleil et on ouvre la porte pour établir une température équilibrée entre l'intérieur de l'observatoire et l'extérieur. Donc la porte est ouverte maintenant. Voilà, le télescope est en train de reprendre sa position verticale. Il fait encore beaucoup trop jour pour observer. Hein. Il y a beaucoup trop de lumière. On commence à observer quand il fait pratiquement noir.
C'est très très impressionnant de voir ce télescope, ce miroir de 8 mètres, se coucher puis se remettre à la verticale sans un bruit, sans un...
Oui, absolument. Tous les systèmes de vérins sont hydrauliques, donc il n'y a pas un bruit. C'est un silence impeccable.
7 heures du soir sur le mont Paranal. Au-dessus d'une mer de nuages moutonneux, l'astronome Rémi Cabanac regarde le soleil se coucher. Ses derniers rayons rasants éclairent un quatuor d'acier, 4 dômes futuristes métallisés qui abritent chacun un télescope géant. Ensemble, ils forment le VLT, le très grand télescope. Ici, à 2600 mètres d'altitude, le désert de l'Atacama ressemble à du papier crépon chiffonné, couleur brune.
Alors le bruit qu'on entend, ce sont les petites fenêtres qui s'ouvrent tout autour du dôme.
Là, on entend un minimum de bruit.
Voilà, le moteur n'est pas hydraulique, là, évidemment. Donc, chaque fenêtre est animée par un bras qui permet d'ouvrir une quarantaine de petites fenêtres tout le long du dôme. Maintenant, vous sentez, le vent passe. En plus des fenêtres en haut, il y a les grandes portes en bas qui s'ouvrent de manière à ce qu'un maximum d'air puisse circuler.
D'ici un moment, tout le monde devra sortir du télescope, de la coupole. Qu'est-ce qu'il va faire toute la nuit, ce miroir ?
Bien, le miroir va être commandé à partir de la zone de contrôle qui se trouve à l'extérieur du bâtiment même, qui est dans une salle complètement à l'extérieur et qui contrôle les 4 télescopes eux-mêmes. Donc le télescope sera contrôlé entièrement automatiquement de l'extérieur de la salle de contrôle.
Par petits groupes, les habitants du site, astronomes, techniciens ou ingénieurs, regagnent la salle de contrôle de l'observatoire. Une pièce éclairée au néon où, devant des ordinateurs disposés en fer à cheval, un astronome et un opérateur travaillent dans une ambiance studieuse, presque monacale. La journée, ils vivent à 1 km en contrebas, dans un minuscule village de préfabriqués où les distractions sont rares. Conséquence, le rendement est ici maximum. Et cet endroit, l'un des plus secs au monde que les Européens ont choisi pour leur observatoire austral, pourrait avoir pour devise efficacité et succès. Au VLT, sur les 350 nuits d'observation annuelles, la moitié sont réservées pour réaliser les programmes que des astronomes envoient d'Europe. Au Chili, en leur absence, d'autres astronomes permanents, ceux-là, comme Olivier Marco, exécutent leurs instructions.
Qu'est-ce que vous faites là ?
Je suis en train de lancer une nouvelle séquence d'observation, parce que la précédente vient de se terminer.
Ça implique que vous changiez l'orientation des instruments, du miroir par exemple ?
Pas dans ce cas-là, parce qu'en fait on est en train de... On fait plusieurs séries d'observations sur le même objet. Là on change aucun paramètre en fait, on a... Simplement on lance des séquences qui durent environ une heure pour se permettre de changer d'objet si les conditions ont changé. Et comme les conditions sont toujours bonnes, voire meilleures qu'avant, je continue sur la même séquence, donc j'ai juste redémarré une nouvelle.
Donc c'est toujours des galaxies ?
Oui. Toujours des galaxies, toujours les mêmes. L'astronome qui fait la demande d'observation en fonction des objectifs qui s'est fixé nous donne les contraintes qu'il souhaite. Alors les contraintes, c'est donc les conditions d'observation, c'est aussi où se trouve sa source. Parce que l'objet qu'il veut observer, il est n'importe où dans le ciel. Il ne va pas toujours être visible, puisque tous les objets se lèvent et se couchent, comme le Soleil. Donc on va aussi chercher à les observer au moment où ils sont le plus haut dans le ciel, parce que c'est là où on a la meilleure qualité d'image. Ça, c'est dû à l'atmosphère. Plus on va regarder bas sur l'horizon, et plus les images seront déformées à cause de l'atmosphère terrestre. Ce qu'on voit très bien aussi quand on regarde à l'horizon, par exemple avec des jumelles, un jour où c'est dégagé, mais où il fait chaud, si vous regardez très loin, l'image elle paraît un peu brouillée, elle paraît un petit peu dansée à travers des jumelles. En fait, ça c'est parce que l'atmosphère, la chaleur de l'air va déformer les images. Or, si on regarde au-dessus de nos têtes, on traverse une épaisseur d'atmosphère qui est plus faible que si on regarde au ras de l'horizon. Donc, on va aussi planifier nos observations en fonction de ça. Ah, ça c'est un petit tremblement de terre. Ah non, c'est pas un petit en fait.
Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là ?
Eh ben, en fait, on a des senseurs sur tous les télescopes et tous les miroirs qui mesurent plus vite que nous l'intensité du tremblement de terre. Et si c'est important, ils vont mettre en route tous les systèmes de sécurité qui protègent les miroirs. Donc là, c'était beaucoup trop petit pour qu'on déclenche quoi que ce soit.
Et pour vous, c'est habituel d'entendre, de sentir ça ?
Habituel non, mais c'est assez fréquent. Non, là je pense qu'on n'a même pas perdu l'objet. Andrés, is it okay? Okay. Okay.
Là visiblement, il faut un peu recalibrer les choses, c'est ça?
Non, on va pas vraiment recalibrer les choses, mais... Non, en fait, là, je suis en train de noter dans le rapport de nuit qu'il s'est produit un tremblement de terre lors de l'image numéro 28. Et je conseille à l'astronome de supprimer cette image parce que le télescope a un peu trop sauté, il a perdu l'étoile de guidage. Ce qui veut dire que dans l'image qui va s'afficher à l'écran, là, dans quelques secondes, on devrait voir une image floue ou bouger. Donc je vais lui dire de ne pas utiliser cette image.
À peine avait-il ouvert ses yeux sur le ciel en 1998 que le très grand télescope européen pointait des objets célestes très peu lumineux. C'est sa mission, remonter le plus loin possible dans le passé, au début de l'univers, pour comprendre l'origine de la vie et ce que deviendra notre système solaire. Et pour cela, le VLT se concentre sur des étoiles très peu brillantes, des galaxies lointaines, la recherche de planètes. Dès le début, on a imaginé ce quatuor de télescopes, chacun équipé de trois instruments différents. Il couvre une vaste région spectrale, c'est-à-dire des longueurs d'onde allant de l'ultraviolet à l'infrarouge lointain. C'est le directeur Roberto Gilmosi qui a la charge d'exploiter au mieux cet outil unique.
First of all, there are four telescopes, and so there is a suit of instruments that are is very varied and it allows to make very different kinds of
observations. D'abord, il y a quatre télescopes et toute une série d'instruments qui vont avec, ce qui permet de faire des observations très variées. En plus, ces télescopes sont parmi les plus grands au monde. Réunis, ils forment même le plus grand télescope du monde. L'un des avantages qu'ils présentent, c'est que la technologie qui est derrière ces télescopes nous permet d'être très efficaces dans le fonctionnement et d'avoir plus de résultats scientifiques. L'important aussi, c'est que dès le départ, il a été conçu comme un interféromètre, et donc on ne va pas seulement utiliser chaque télescope de façon indépendante, mais aussi en les combinant pour faire de l'interférométrie, ce qui permet d'avoir une bien meilleure résolution des objets. On pourra donc voir des détails plus fins sur les objets qu'on observe. Pour vous donner une idée, dans les cas les plus fins, ça veut dire des détails 50 à 100 fois plus fins que sur un télescope spatial. L'autre avantage, c'est la façon de travailler. C'est très automatisé. Les astronomes définissent exactement ce qu'ils veulent faire avant de démarrer l'observation. Ils écrivent un descriptif de leur programme qui est ensuite réalisé automatiquement par les instruments et le télescope. Du coup, on a très peu de temps mort. Pour vous donner un exemple, le deuxième télescope, qui est le plus efficace, a atteint un taux d'efficacité supérieur à 90%, ce qui veut dire que 90% du temps, il observe des objets astronomiques.
Pas une minute n'est perdue pendant la nuit. Chaque minute est utilisée de façon optimale.
Et comment on obtient cette efficacité ?
Alors, on obtient cette efficacité en préparant avec énormément d'applications, chaque nuit d'observation. Et pour ça, il y a des équipes administratives et des équipes d'astronomes qui se penchent sur chacune des demandes d'observation et qui préparent la nuit très, très attentivement.
Et le jour, il y a des gens qui contrôlent les instruments pour être sûr que la nuit venue, ils répondent présents.
Tout à fait. Il y a aussi une équipe de jour qui, effectivement, s'occupe et se maintient l'instrument en bonne et due forme de manière à ce qu'il soit prêt au moment où la nuit commence.
Les performances du très grand télescope viennent aussi de la technologie très avancée qui est utilisée. Photomètre, spectrographe à haute résolution et caméra CCD, autant d'instruments qu'il faut bichonner. Une équipe technique vit au Mont Paranal en permanence pour cela. Quand les astronomes dorment le jour, des spécialistes du froid, de l'optique, de la mécanique, de l'électronique vérifient tous les systèmes un à un.
One of the daily work we must do and one of the most important.
Alors voilà une des opérations qu'on doit faire tous les jours.
The CCD detectors.
C'est une des plus importantes.
To, low
il faut maintenir les détecteurs CCD à basse
temperature.
Cette basse température, on l'obtient facilement grâce à de l'azote liquide. Et chaque jour, on refait
daily,
le plein pour tous les instruments.
It should be cold. Because,
ils doivent être refroidis pour empêcher toute panne causée par une élévation de température. Ces détecteurs travaillent dans la spectroscopie et il ne leur faut surtout aucune chaleur.
If you have a warm system, you will have, it's like
si tu réchauffes le système, eh bien c'est comme si tu ouvrais ton appareil photo.
It's the same that if you take off your tape of a photograph is going black.
Le film deviendrait noir, tu n'aurais vraiment aucune photo et tu ne pourrais voir absolument rien.
Le miroir fait 8,20 m de diamètre et seulement 18 cm d'épaisseur. Il est fait avec un matériau qu'on appelle le céroduro, une vitrocéramique. La principale caractéristique de ce matériau, c'est qu'il n'interagit pas avec la température, il ne se contracte pas ni se détend sous l'effet de la chaleur ou du froid. Le miroir est couvert d'une couche d'aluminium pour augmenter sa réflexivité, l'amener à 98%. C'est presque parfait pour l'astronomie. C'est même parfait, je devrais dire. Sur les côtés, vous pouvez voir les activateurs pour l'optique adaptative. Et ces crochets-là, ces crochets noirs, font partie du dispositif anti-sismique. En cas de tremblement de terre, il faut protéger les miroirs.
Et sur le dos du miroir, il y a ce système complexe.
Oui, le VLT marche selon un système qu'on appelle l'optique adaptative, ce qui permet au miroir de conserver en permanence une forme parfaite pour observer. En termes simples, on peut dire que ça pousse et ça tire le miroir pour qu'il garde sa forme. Le miroir est si grand et si fin qu'il pourrait se déformer facilement à cause des mouvements qu'on lui impose toute la nuit. C'est ça l'optique adaptative. Il y a un système très sophistiqué, très compliqué de 150 activateurs contrôlés par ordinateur qui travaillent toute la nuit à chaque fois qu'on change les positions et les observations.
Quand on les utilise séparément, les télescopes du VLT sont capables, après une heure d'exposition, de voir des objets célestes 4 milliards de fois plus faibles que ce qu'on peut voir à l'œil nu. Mais une fois combinés, la lumière de ces télescopes permettra d'observer en mode interférométrique, un système prévu pour atteindre un niveau de qualité d'image inégalé, à tel point qu'on pourrait distinguer un homme à la surface de la Lune. Imaginé dès sa conception, l'interférométrie s'est concrétisée pour la première fois au VLT le 31 mars dernier. Pierre Kervala, en troisième année de thèse à l'Observatoire, était là pour assister à cette expérience délicate. Elle donne aux Européens une longueur d'avance sur leurs concurrents américains.
L'interférométrie permet, par rapport à un télescope simple, unique, d'obtenir une netteté d'image beaucoup plus grande qu'un télescope unique. La netteté que l'on obtient est en fonction de la distance entre les différents télescopes qu'on utilise.
L'interférométrie, ça fait appel à plusieurs télescopes et non pas un seul. C'est ça la grande différence ?
Voilà, c'est la grande différence. C'est-à-dire qu'on peut obtenir à partir d'équipements beaucoup moins lourds, de télescopes beaucoup plus petits, moins chers, une information comparable à celle qu'on aurait avec un télescope extrêmement grand et beaucoup plus difficile à construire.
Donc si on a deux télescopes séparés de 100 mètres, on combine leurs deux images et c'est comme si on avait un télescope unique de 100 mètres de diamètre ?
Effectivement, on obtient une image qui contient une information parcellaire, mais qui est similaire à celle qu'on obtiendrait avec un télescope de cette taille très grande. On prélève la lumière des deux télescopes, on la conduit à travers un chemin optique assez complexe, et ensuite on mélange la lumière de ces deux télescopes, on l'additionne, et on mesure ce qu'on appelle les interférences, c'est-à-dire le résultat de l'addition des deux lumières. Et à partir de cette mesure-là, on peut reconstituer l'information avec une précision aussi grande qu'un télescope.
On assiste à un mouvement qui consiste à augmenter toujours plus la taille des miroirs des télescopes. Est-ce que l'interférométrie pourrait mettre un terme à ce mouvement parce que ce serait une façon plus puissante de regarder le ciel ?
Non, pas vraiment. En fait, l'interférométrie est très complémentaire vis-à-vis des grands télescopes monolithiques parce qu'elle permet d'avoir des informations avec une plus grande précision, mais de nature beaucoup moins générale. En fait, une image d'un télescope classique contient une information, je dirais, évidente sur par exemple, la forme d'une galaxie ou la forme d'une nébuleuse ou d'un amas stellaire. L'interférométrie va, par exemple, aller voir une seule étoile de l'amas stellaire, la regarder en détail très particulier, ou aller voir le centre d'une galaxie pour voir le trou noir qui s'y trouve et analyser vraiment précisément le comportement du gaz autour de ce trou noir, par exemple. Mais les deux techniques sont complémentaires, c'est-à-dire qu'on aura toujours besoin d'images, disons, classiques, de télescopes classiques, que l'on peut complémenter de manière très intéressante avec les mesures interférométriques. Bon, alors on va commencer par l'étoile la plus brillante, qui est Sirius, qui est une étoile qu'on voit également dans l'hémisphère nord, qui est donc l'étoile la plus brillante du ciel. Ensuite, on a Canopus qui est ici, et celle-là, c'est la deuxième plus brillante du ciel, mais on ne la voit pas dans l'hémisphère nord. Donc là, vous avez la chance de voir les deux plus brillantes l'une à côté de l'autre. Ensuite, si on continue à tourner, on voit la Croix du Sud, donc qui servait autrefois aux marins à se diriger, mais en fait, elle n'est pas exactement dans les directions du sud. Malheureusement, dans l'hémisphère sud, on n'a pas d'étoiles polaires, donc qui permettent de repérer exactement le pôle sud.
Quand vous avez choisi d'être astronome, vous aviez une image d'Épinal de ce métier. Vous n'avez, vous parliez des nuits de veille quand on a froid, mais c'est vrai qu'au moins on regardait le ciel. Là, on regarde des écrans d'ordinateur désormais.
Oui, tout à fait, mais on ne regarde pas l'écran, on regarde l'image qui est à l'écran, et c'est vraiment, pour moi, c'est l'équivalent. Il y a, la poésie est toujours présente, c'est quelque chose qui ne part pas. C'est fascinant de voir apparaître des galaxies à des milliards d'années-lumière en quelques minutes sur son écran d'ordinateur. C'est exceptionnel, c'est un sentiment de découverte qui reste toujours aussi puissant, à mon avis, quel que soit le niveau de technologie. Pour moi, entre l'ordinateur et le ciel, il y a le télescope qui est essentiel, et c'est la même chose que si je regardais le ciel la nuit. C'est le même étourdissement, c'est la même poésie. C'est vraiment très similaire.
Pourtant, quand on se trouve ici, dans l'hémisphère sud au Chili, et en particulier sur le mont Paranal, la coupole du ciel, enfin le ciel lui-même, est absolument grandiose. D'abord, les étoiles vont très loin sur l'horizon, c'est d'une richesse incroyable. Sur un écran d'ordinateur, c'est quand même une toute petite partie du ciel que vous voyez.
Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Mais pendant la nuit, quand on a un petit coup de cafard, on sort, on est un petit fatigué, on sort et on regarde le ciel, et là, on est ébloui de nouveau. Et c'est vrai que c'est presque nécessaire pendant une nuit d'observation, de sortir et d'être émerveillé. Et c'est vrai que le ciel de l'hémisphère sud est exceptionnel.
Vous n'êtes pas frustré d'être un astronome au service d'autres astronomes ?
Non, je crois pas, parce que la beauté d'être ici, c'est d'avoir accès à une multitude de programmes, bien plus que ceux que j'aurais peut-être pu imaginer moi tout seul. Parce que comme on reçoit des programmes de toute l'Europe, et même plus largement, dans tous les domaines d'astronomie, il est évident que ça va bien au-delà de ce que je connais moi. Donc ça m'apprend beaucoup de choses, ça me donne des idées pour d'autres domaines. Je pense aussi que c'est joli d'être au cœur des programmes les plus intéressants, parce qu'il faut voir qu'ici on exécute que des programmes qui ont été au préalable sélectionnés par un comité scientifique, et que seuls les meilleurs ont été retenus, et qu'il y a une très forte pression. Donc l'idée qu'on me confie ce télescope pour exécuter les programmes les meilleurs de la planète, c'est pas du tout frustrant, je dirais plutôt que c'est excitant.
À 600 km de là, en direction du sud, autre décor, autre ambiance. L'observatoire de la CIA regroupe 14 télescopes de toute taille. Au sommet de la montagne, ils offrent le spectacle de magnifiques coupoles aux rondeurs familières. Démarré en 1967, l'observatoire abrite quelques dinosaures de l'astronomie.
This is up to 50 meters, right, of high.
Ça fait 50 mètres de haut. C'est un énorme bâtiment. Dans les années 70, on pensait que pour avoir les meilleures images possibles, il fallait construire les télescopes le plus haut possible. Donc, on a choisi un sommet sur la Scylla pour y bâtir le télescope. On pensait que la qualité des images en dépendait. Maintenant, on sait que ce n'est pas si important que ça. On a fait de réels progrès, en fait.
A lot of concrete was wasted actually to build this telescope. A lot of floors.
Il y a beaucoup d'étages.
Pour qu'il continue à produire de la bonne science, il a fallu moderniser ces télescopes. On a notamment introduit l'informatique sur des montures autrefois pilotées à la main. Michael Steitzig, astronome allemand, est fier d'avoir participé au lifting du 3,60 m.
Impressive dome.
Bon, alors vous voyez là ce dôme imposant, très lourd, pour protéger le télescope du mauvais temps, la pluie, bref, ce genre de choses. Le miroir principal pèse 12 tonnes. Il est très massif, très épais.
The telescope looks rather
le télescope est très impressionnant. Dans le passé, quand on observait, on utilisait ces cylindres. Et il faut imaginer que ces cylindres étaient montés tout en haut du télescope et qu'une personne était assise dans cette partie avec un appareil photo et les plaques photographiques et que cette personne observait toute la nuit attachée, serrée en haut du télescope. C'était le temps de l'aventure pour l'astronomie. Dans le froid, dans le vent, incliné comme ça à 30 mètres au-dessus du sol.
So if you want to try
si vous voulez essayer, vous êtes les bienvenus. Le siège est une drôle de monture. Allez-y.
We call it gynecologist.
On l'appelle le siège du gynécologue.
Comfortable?
Ouais, c'est confortable.
C'est spécialement intéressant. C'est la salle de contrôle. Ça, c'est la salle d'ordinateur. Et là-dedans, on a l'instrument, mais en principe, on n'ouvre pas la porte parce qu'on essaie de contrôler la température le mieux possible. Hein. À l'intérieur de cette pièce, il y en a une autre. Et dans l'autre pièce à l'intérieur, on essaye de maintenir le centième de degré. Voilà, on continue. Je suis là depuis 77.
Vous avez vu les choses évoluer. Alors ça, c'est l'outil le plus moderne du site, mais vous avez vu...
Oui, je ne sais pas si c'est le plus moderne du site, mais enfin, c'est un des derniers, oui.
Ouais. Vous avez vu arriver les différents télescopes, les différents instruments?
Non, quand je suis arrivé, il y avait pratiquement tout, déjà. Ils finissaient le 3,60 m. Après, ils ont encore fait le NTT, peut-être le 2,20 m. Mais disons que quand je suis arrivé, la scie était déjà constituée.
Donc la manière de travailler n'a pas énormément évolué depuis toutes ces années?
Aussi, parce qu'au début, on travaillait dans la coupole avec une veste, un gros bonnet. Puis on faisait tout à la main, quoi, y compris des fois le pointage du télescope. Maintenant, c'est tout automatique. On prépare une liste là-bas, ici, à ce télescope-là. On prépare une liste d'étoiles. Et puis le télescope va d'une à l'autre, il pointe tout seul, la coupole tourne, il n'y a pratiquement plus rien à faire.
Vous regrettez le temps du bonnet et des nuits
non,
froides?
Non, pas du tout, alors non. Puis travailler la nuit, il faut vraiment être obligé, hein. Enfin dans mon cas, disons. Puis c'est long, quoi. Si vous prenez les nuits d'hiver, par exemple, c'est 12 heures, quoi. Vous êtes là 12 heures.
C'est long pour Michel Burnet, d'autant que le tout nouveau télescope suisse où il travaille est complètement automatisé. La nuit, l'ingénieur ne fait que surveiller un éventuel problème. Pour Pascal Fouquet aussi, les nuits se suivent et se ressemblent. Détaché au Chili pour le compte de l'Observatoire de Paris, cet astronome a le Marly pour QG, un télescope qui n'a dans l'œil qu'une cible, des étoiles, histoire de voir si l'une d'entre elles n'aurait pas varié en 24 heures. Un vrai travail de moine.
Voilà, bon, on va pas tarder à démarrer, on va recommencer. Alors, en début de nuit, on pointe le grand nuage de Magellan. Donc, comme je vous ai expliqué, on va chercher dans ce nuage, voir s'il y a des étoiles du halo de notre galaxie qui passent devant les étoiles du nuage de Magellan et qui les amplifient. Et puis ensuite, plus tard dans la nuit, on va passer sur le centre galactique. Et en fin de nuit, on ira sur le petit nuage de Magellan. Et puis demain, on reprendra exactement les mêmes champs et on regardera ce qui a changé d'une journée à l'autre.
Et ainsi de suite pendant des semaines.
Et ainsi de suite pendant des années. L'idée, c'est quand même de faire plus de l'astronomie statistique que de l'astronomie sensationnaliste, où on fait des grandes découvertes.
Qu'est-ce qui se passe?
Alors là, Là, c'est la coupole qui a tourné. Et donc, les deux sont complémentaires, en fait. C'est-à-dire, c'est bien de faire des grandes découvertes, ça fait avancer la science, mais c'est bien aussi d'observer des objets normaux. Parce que quand on observe un objet anormal, il faut toujours le comparer à quelque chose de normal pour savoir quelles sont les différences. Donc, si on n'a pas étudié un grand nombre d'objets normaux pour définir justement la normalité, on ne peut pas comprendre ce qui est anormal dans un objet anormal. Et donc, en fait, les deux sont complémentaires. Bon, voilà, là, on a le télescope qui bouge et qui va aller pointer le grand nuage de Magellan.
Là, on est sous la coupole, mais c'est exceptionnel pour vous ?
Oui, d'habitude, on est dans la salle de contrôle. Là, on laisse le télescope tout seul comme un grand.
Et vous ne voyez donc ni le télescope, ni le ciel ?
Non, on ne voit plus le ciel. On voit toujours le ciel à travers les écrans d'ordinateur. On ne regarde pas dans le télescope, malheureusement.
Ça vous manque ?
Oui. c'est une des choses intéressantes de l'astronomie, de venir déjà dans des lieux qui sont en général très beaux, qui sont assez éloignés de toute civilisation. Il y a un côté monastique dans l'astronomie. Il y a un certain charme de l'astronomie qui disparaît là-dedans. Moi, j'aime bien l'astronomie comme ça. J'aime bien avoir un télescope de taille un peu à ma taille, je dirais, où on comprend ce qui se passe. Bon, c'est vrai que c'est important aussi d'avoir des très grands télescopes géants qui permettent de voir l'univers beaucoup plus loin qu'un petit télescope. Mais un petit télescope, ça permet aussi de mesurer des millions d'étoiles, par exemple, comme on fait ici, de voir quelles sont celles qui varient d'un jour à l'autre et d'en déduire aussi des propriétés très importantes de ces étoiles, de découvrir des phénomènes nouveaux. Enfin, c'est, encore une fois, c'est complémentaire.
Cette nuit-là, le vent souffle fort sur la Silla et le taux d'humidité décourage Malvina Bière d'ouvrir la coupole du NTT. Ce télescope récent a servi de laboratoire pour concevoir et bâtir le très grand télescope. Malvina, astronome en résidence pour 2 ans, et Christophe Benoît, astronome visiteur pour 4 nuits seulement, surveillent les indicateurs sur les écrans.
Là, on attend que le vent s'arrête pour pouvoir réouvrir le dôme. Et éventuellement, peut-être s'il se calme. Ah. Rogue. Ah. Tu vas à Berl bientôt ? Vaya comer ? Si, señor. Ok. Et si effectivement le vent redescend, on va réouvrir. Et donc, normalement, le technicien garde toujours un œil sur la qualité du vent, etc., les différents paramètres. Et on peut effectivement rester fermé toute la nuit.
C'est long cette attente ?
Pour l'astronome, généralement, oui, parce que lui, il perd sa nuit, quoi. Quand il fait franchement mauvais, qu'il pleut ou n'importe quoi, ok, on va se coucher, on oublie ça. Mais quand on est là à attendre que l'humidité descende ou que le vent descende, c'est assez frustrant. On espère constamment que ça va se faire. Et y a des fois où on attend toute la nuit pour absolument rien, quoi.
Ça, c'est quelque chose qui ne changera jamais en dépit de la haute technicité, de la modernisation des instruments.
Exactement. On ne peut absolument rien faire sur le temps. Au Chili, c'est soi-disant l'endroit qui est le plus sec comparativement aux autres télescopes, mais il n'empêche qu'on a du mauvais temps comme nulle part ailleurs et on peut absolument rien y faire, quoi. L'humidité, on peut pas l'empêcher, le vent, on peut pas l'empêcher. Du moment qu'on est obligé d'ouvrir le dôme pour pouvoir observer, pour que le télescope regarde derrière, le vent s'engouffre dans le dôme et donc on peut rien y faire, quoi.
Travaillez toujours dans cette ambiance de musique ?
Ça dépend. Alors la journée, c'est les TIO qui choisissent la musique parce qu'ils sont là. Les TIO, les techniciens de 2 jours, puisqu'ils vont être dans la salle de contrôle. Et la nuit, généralement, c'est l'astronome qui choisit. Donc cette nuit, vous verrez ce que Christophe a choisi comme musique. Mais ça, c'est bien comparé au VLT. Au VLT, ils n'ont pas le droit d'écouter de la musique. Moi, je sais que j'aimerais pas. c'est dur à la fin de la nuit parce que vers 4-5 heures, on est fatigué et tout. Et d'avoir de la musique, ça garde éveillé. Donc non, c'est sympa. On n'a que la musique, on n'a pas de télé, rien du tout, mais on a de la musique, donc c'est bien.
Quel est l'intérêt pour vous de venir sur place, dans le télescope, et non pas de commander à un astronome qui serait ici permanent de faire le travail ou l'observation pour vous ?
Ça permet en fait de prendre des décisions. Quand il y a des décisions à prendre, en fait, si le temps est mauvais ou autre, en fait, il y a des priorités, et en fait, les astronomes qui sont sur place ne connaissent pas forcément les probabilités par rapport au projet que nous avons. Donc ça, c'est l'intérêt d'être ici. Et puis ça permet aussi de savoir comment ça se passe, ce qui n'est pas inintéressant non plus.
Est-ce que vous pensez que ça enlève quelque chose à l'astronomie ou au travail de l'astronome, à son plaisir de ne pas être justement présent quand le télescope observe ?
Je pense que c'est important de venir. Ça fait partie aussi de la vie de l'astronome. Si on doit rester cantonné dans notre bureau face à notre écran, c'est plus le même métier.
Et pourtant, c'est ce qui se passe au VLT.
C'est ce qui se passe de plus en plus, ouais, malheureusement. Si ça continue dans cette direction, oui, je vais le regretter comme beaucoup d'autres, en fait. Hein, c'est clair.
Qu'est-ce qui va vous manquer ?
Cette vie particulière qu'il peut y avoir dans un observatoire comme ici, un peu isolé de tout. Et puis vraiment le fait aussi d'être en contact direct avec les données, parce que recevoir en fait une cassette chez soi par la poste, c'est pas forcément très motivant, quoi.
En termes d'efficacité et d'intérêt des données collectées, c'est la même chose malgré tout.
Oui, alors bon, il y a quand même un intérêt parfois à ne pas venir, parce que en fait, parfois pour certaines observations, ça nécessite des conditions très particulières. Quand nous on vient pendant 4 nuits, c'est planifié à l'avance, hein, et donc si le temps est mauvais, on perd nos données. Alors que quand on travaille en fait en service mode, donc quand les observations sont faites par des astronomes sur place, hein, on peut à ce moment-là obtenir des conditions qui sont celles qu'on veut. Donc là, il y aura moins de déchets, mais bon.
En astronome visiteur, Christophe Benoît est attentif à la météo. En cas de mauvais temps, son déplacement de 4 nuits au Chili n'aura servi à rien. Son voisin suisse, Michel Burnet, est beaucoup plus flegmatique. Un seul programme pour le télescope dont il s'occupe, la chasse aux exoplanètes, ces planètes qui tournent autour d'étoiles très loin de notre système solaire. Récemment, les Suisses en ont déniché 11 nouvelles.
Qu'est-ce qu'on regarde avec ce télescope ?
Bon, le travail actuel, c'est les vitesses radiales. Ça veut dire qu'on mesure la vitesse avec laquelle une étoile s'éloigne de nous ou s'approche de nous. Et principalement, les variations de cette vitesse. Alors, si par exemple, on a une étoile qui semble s'éloigner, puis se rapprocher, puis s'éloigner de nouveau, ça veut dire qu'il y a probablement un objet qui tourne autour de cette étoile, et ça peut être une planète. Et c'est ça le thème de recherche actuel de l'Observatoire de Genève, les planètes.
Et là,
les exoplanètes.
Et là, il vient d'y avoir une découverte assez importante.
Ouais, il en tombe une assez régulièrement, quoi. Ouais, il y en a déjà une bonne douzaine. Ouais, ça marche bien. Ça marche bien, on est content. Mais on travaille aussi. Hein. Bon, ben, on va redescendre. Hein. On a fait le tour, il n'y a rien d'autre. Ici, c'est l'arrivée du téléphone et de l'informatique, de les fibres optiques. Ici, avec les données qui viennent de l'ESO. Hein. Alors bon, on a le mail, et puis on a le téléphone. Maintenant, toutes ces communications vont très bien maintenant. Hein. Au début, c'est un peu plus laborieux. Si on a un problème, et qu'il n'est pas trop urgent, on envoie un email. Et s'il est urgent, on téléphone. Non, les communications vont... Moi, avant, c'était par lettre, hein, quand je suis arrivé.
Mais la réponse vous arrivait au bout de combien de temps ?
Ah, pour une lettre, c'était, je sais pas, 20 jours, quoi. 10 jours pour aller, 10 jours pour revenir. Il y avait toujours le téléphone, mais c'était tellement cher qu'on essayait d'éviter, quoi. Les crédits n'étaient pas illimités non plus.
Trois ans après avoir ouvert son premier œil, le très grand télescope prouve chaque jour la pertinence de l'investissement qu'il a nécessité, 500 millions de dollars sur 10 ans. Cette somme n'est acceptable pour les États membres de l'Organisation européenne que si le succès est au rendez-vous. Or déjà, les résultats sont extraordinaires. Pour son directeur, Roberto Gilmosi, ce n'est qu'un début. Le très grand télescope ne se contentera pas de confirmer ce qu'on sait déjà.
Non, je crois que ce télescope est assez avancé pour ne pas se contenter de faire de la bonne science, pour confirmer des choses qu'on sait déjà, mais il est fait pour découvrir un certain nombre de choses nouvelles. Mais surtout quand il sera utilisé sur le mode interférométrique, je crois que les découvertes seront assez fréquentes. Je suis presque sûr que l'interférométrie nous permettra de faire des images de planètes autour d'étoiles, ce qui n'a jamais été fait. Et si on est un tout petit peu chanceux, on trouvera peut-être des planètes comme la Terre autour de ces étoiles.
Vous voulez dire très petite ou...
Very small, but
très, très petite, mais surtout
rocky,
rocheuse, et pas des géantes gazeuses comme Jupiter. Peut-être avec une atmosphère, et peut-être avec quelque chose dans cette atmosphère. Allez savoir.
Et pour quand vous attendez-vous à cette grande découverte?
Je crois que ce sera l'une des premières choses que fera le VLTI quand il sera opérationnel d'ici 2002-2003.
Pour le moment, la précision qu'apporte l'interférométrie n'a jamais été obtenue par aucun autre moyen observationnel.
Pierre Kerbala.
C'est-à-dire qu'on va gagner un facteur 50 sur les précisions obtenues actuellement avec des télescopes simples, au niveau par exemple de l'observation d'un trou noir ou d'une étoile. On s'attend à faire de grandes découvertes du fait du gain énorme en précision, en résolution que l'on va obtenir avec l'interférométrie.
Pour prendre l'exemple d'une étoile, qu'est-ce que l'interférométrie va nous apprendre sur elle? Dans quels détails on va pouvoir aller?
Alors, les étoiles sont les cibles, traditionnelles de l'interférométrie, parce qu'elle présente l'avantage d'avoir un disque lumineux et bien défini. L'observation par interférométrie permet de déterminer leur taille avec une précision qui est inégalée par aucun autre moyen. Et on peut donc observer toutes les sortes de variations possibles sur la taille des étoiles, des pulsations, des oscillations, des paires d'étoiles doubles qui orbitent l'une autour de l'autre, et éventuellement même observer les planètes extrasolaires qui orbitent autour de ces étoiles pour peut-être, c'est une observation difficile mais intéressante, obtenir un spectre de planètes pour ensuite observer des raies gazeuses intéressantes.
Comment pensez-vous l'astronomie de demain ?
L'astronomie de demain doit conserver son aspect pluraliste, c'est-à-dire doit conserver sa fertilité.
Rémi Cabanac.
Il ne faut pas se cantonner dans un domaine particulier. Il y a énormément de domaines intéressants dans l'astronomie et toute l'astronomie est intéressante. L'astronomie stellaire, les galaxies, le gaz entre les galaxies, tout doit être étudié. Et je pense que c'est en conservant une vue d'ensemble de tous les domaines de l'astronomie qu'on peut avancer tout en développant des outils dans des domaines qui n'existent pas encore. Et je pense à toute l'observation des particules étranges, des ondes gravitationnelles, des neutrinos, qui en est à ses balbutiements, des rayons cosmiques. Tous ces domaines de l'astronomie en sont vraiment à leur début. L'astronomie est une science millénaire et en même temps une science tellement jeune qu'on en est encore qu'à ses balbutiements.
Mais ça passe par l'avènement d'un nouveau Galilée ou par cette course à la technologie, à des télescopes toujours plus grands?
C'est une question qui est difficile. Je pense que un Galilée est nécessaire. Je ne sais pas qui ce sera, mais je crois que c'est nécessaire. Mais le Galilée devra utiliser, tout comme Galilée le faisait, les instruments de son époque, les meilleurs. Galilée a inventé des instruments exceptionnels à son époque, de très grande qualité. Galilée était un très grand instrumentaliste et un grand théoricien. Je pense que le Galilée moderne devra aussi regrouper ces deux qualités. Le VLT est vraiment une étape nécessaire, agréable, de très bonne qualité, mais une étape vers un progrès plus important. Finalement, on ne connaît pas grand-chose de l'univers.
Interception, Simon Tivol.
Les grands télescopes, comme le VLT qu'on vient de vous présenter, permettent une plongée dans l'infini absolument fascinante. Par exemple, il y a seulement 3 ans, on connaissait à peu près 3% de l'histoire de l'univers. Aujourd'hui, on peut en voir 90%. L'astronomie est en plein boom. Désormais, on peut ou on pourra non seulement découvrir des étoiles ou des planètes, mais connaître leur taille, leur composition, leur formation. La qualité et l'efficacité du VLT permettent le grand retour de la vieille Europe à la tête de l'astronomie mondiale. Certes, l'observatoire américain d'Hawaï a de plus grands miroirs, mais le rendement de ce télescope est moins bon. Quant aux télescopes spatiaux comme Hubble, il n'y en aura pas beaucoup d'autres, car ils coûtent une fortune. Les Européens et les Américains, avec le concours des Japonais, ont en préparation un projet baptisé ALMA, un grand nombre de télescopes couplés entre eux, qui seraient installés comme le VLT au Chili. Un télescope pour le 21e siècle, les débuts de l'astronomie industrielle. C'était un reportage de Sophie Bécherel, réalisation signée Anne Lioro, assistante Karen Dehay. Si vous voulez nous retrouver sur Internet, je vous rappelle notre adresse franceinter.com. La semaine prochaine, au programme d'interception, la désertification catastrophique au Niger.